La fin justifie les moyens quand l'ours polaire s'attaque à l'oie des neiges. C'est le titre de l'article que vous aviez choisi de partager avec l'auditoire, Monique.
Exactement, oui, j'ai repéré cet article dans La Conversation, ce site agrégateur de recherche universitaire, combien précieux, surtout dans ces temps-ci. Et ça a été publié en fait en 2023, Hélène, mais je l'avais gardé, je ne sais pas, en réserve comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et voilà.
Ça demeure d'actualité.
Exactement. Alors d'abord, Hélène, il faut se rappeler que c'est durant l'hiver que les ours polaires constituent leur réserve de graisse. La chasse intensive de phoques, une ressource, on le connaît bien, riche en gras, leur permet d'emmagasiner assez d'énergie pour traverser l'été. Alors, avec le réchauffement du climat, les opportunités de chasse sur la banquise, on le devine, diminuent. Et les experts estiment qu'il n'y a pas assez de nourriture sur la terre ferme pour compenser la diminution des réserves énergétiques chez les ours. Alors, face à ces changements, bien, certains individus profitent des colonies d'oiseaux nicheurs et de leurs œufs, l'une des rares ressources faciles à obtenir sur la terre ferme pour combler en partie leur déficit énergétique. Les adaptations que les ours devront déployer pour faire face aux défis imposés par ces changements climatiques sont multiples et surtout imprévisibles. Étudiant-chercheur en écologie, c'est un des auteurs de cet article, David Bolduc, profitait d'un court séjour au nord de l'île de Baffin, au Nunavut, pour travailler sur la petite faune de l'île Bilot. Le temps d'un après-midi, un ours polaire en a décidé autrement. Alors, David nous livre les prouesses de l'ours qui ont mené à l'observation d'un comportement inédit. Alors, on se reporte, si vous le voulez bien, le 8 août 2021, à 80 km de la communauté inuite de Mitimatalik, je répète, Mitimatalik. C'est le camp de recherche de l'île Bilot, ce camp qui fourmille d'activités, vous le devinez. Alors, établi depuis 30 ans, ce camp de recherche est situé en plein cœur de l'aire d'élevage de la plus grande colonie connue d'oies des neiges.
Je ne connais pas les oies des neiges.
Alors, je peux vous dire le nom scientifique, c'est Anser Kerulescens. Kerulescens.
OK,
alors,
ça m'aide beaucoup. Voilà. Merci.
On peut chercher oies des neiges sur l'Internet. Alors aujourd'hui, les scientifiques de différents horizons parcourent le fond de la vallée Qualirtuvik, généralement plat, pour étudier le sol, l'eau, les plantes et la faune. Alors, en sortant d'un ravin, l'un, semble-t-il, des rares reliefs des environs, ben, notre ami David Bolduc balaie la vallée de ses jumelles. Deux paires de jambes retiennent son attention au loin. Les brumes de chaleur brouillent l'image, mais ce qu'il considérait être des collègues marchant côte à côte prend soudainement la forme floue, mais caractéristique d'un ours polaire. Alors, bien que tous aient l'équipement nécessaire, vaporisateur chasse-ours, cartouche anti-ours et parfois même un fusil, David retourne presto au camp après avoir alerté le groupe par radio. Plusieurs collègues se sont regroupés alors sur une petite colline pour garder à l'œil le nouveau venu. En effet, le temps que David parcourt le kilomètre le séparant du camp, Nanook, ça c'est ainsi que les Inuits nomment l'ours polaire. Donc Nanook en avait fait trois dans sa direction et s'affairait autour d'un étang occupé par des oies. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, celles-ci sont en mue, donc incapables de voler, et s'attroupent près des étangs pour échapper aux renards arctiques qui dédaignent de se jeter à l'eau. Avec un ours dans les parages, ben les activités sur le terrain cessent, et les chercheurs profitent de cet après-midi radieux pour observer le roi de la banquise.
Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le roi de la banquise.
C'est joli, non? Oui. On l'imagine bien étendu sur sa banquise, sauf qu'elles deviennent de plus en plus petites et rares. Alors, fidèles à leur habitude, les oies se sont réfugiées dans l'étang le plus proche à la vue du danger. Alors, elles pataugent suffisamment rapidement pour maintenir l'ours qui nage à la surface à une bonne distance. Alors, celui-ci, notre nanouk, utilise alors une technique inédite. Il plonge sous l'eau, disparaît aux yeux des oies qui cessent de fuir et sort sous l'une d'elles. Une collègue de David consigne ce comportement dans son carnet. Et je vous lis ce qu'elle a écrit. 13h45, 14h, l'ours nage dans le lac, effectue 4 plongées pour essayer d'attraper une oie. Réussit à sa 4e tentative. Attrape l'oie par en dessous lors d'une plongée. Au cours de l'après-midi, l'ours utilise cette technique 2 autres fois avec un échec et une réussite. Donc, il perfectionne son truc là. 2 mois plus tard, de retour à l'Université Laval, les chercheurs se sont demandé quels bénéfices les ours peuvent tirer de ce comportement parce que cette observation fascine toujours l'équipe. Nulle part dans la littérature scientifique ne fait-on mention d'un tel comportement. Au mieux, on y rapporte des attaques sur des guillemots dans l'océan, près des côtes, un environnement fort différent des étangs calmes et peu profonds où l'équipe a observé les attaques de l'ours. Un guillemot, Hélène, c'est un oiseau palmipède qui est voisin du pingouin.
OK, merci.
Alors, ça ressemblait à guillemets, hein? On aurait pu dire...
Entre guillemots.
Entre guillemots, c'est ça.
Une réunion entre pingouins.
C'est ça, exactement. Alors, étant au fait des défis énergétiques auxquels font face les ours durant l'été, le groupe de recherche a voulu répondre à la question suivante. Est-ce que cette technique de chasse permettrait à l'ours polaire de bénéficier de la consommation d'oies des neiges? L'information consignée sur le terrain, soit le temps nagé par l'ours et son succès de chasse, permettait justement d'y répondre. Alors, en combinant leurs observations avec des estimations du coût énergétique de la nage chez l'ours et l'énergie contenue dans une oie des neiges, ils ont pu modéliser l'efficacité énergétique de la technique. Ces calculs révèlent que cette technique de chasse pourrait permettre aux ours d'acquérir plus d'énergie qu'ils n'en dépensent, particulièrement pour les ours de petite taille. Et ce, s'ils arrivent rapidement à attraper l'oie. Hein, sa première tentative, 4 fois, puis il en sort une, bon, c'était pas trop bon, mais la deuxième fois, 1/2, c'était déjà meilleur. Et si on est de petite taille, donc on sous-entend plus jeune, c'est encore mieux.
On peut se déplacer plus rapidement, plus facilement.
Aussi, exactement. Cet apport énergétique aurait toutefois une portée très limitée. Tout d'abord, une oie fournit relativement peu d'énergie. Alors, environ 200 fois moins qu'un phoque annelé, ça c'est, ou marbré, c'est une catégorie de phoque, celui qui a des petites taches blanches, de 45 kg. De plus, elles sont rarement disponibles comme proie, parce qu'elles perdent la capacité de voler seulement 3 ou 4 semaines chaque été, et leurs colonies sont situées à quelques endroits seulement dans l'Arctique. La chasse d'oies pourrait donc bénéficier ponctuellement à certains ours, mais ne permettra pas à l'échelle de la population d'alléger les déficits énergétiques causés par la fonte de la banquise. Alors, bien que l'observation de l'équipe de recherche souligne l'éventail comportemental que peuvent déployer les ours pour exploiter les ressources terrestres, ce type d'interaction entre l'oie des neiges et l'ours polaire ne devrait pas avoir d'impact sur les populations des deux espèces. Donc, quelle autre stratégie notre nanouk polaire devra déployer pour arriver à emmagasiner suffisamment d'énergie? Je pense que la réponse et les observations de nos chercheurs restent à faire et la réponse reste à trouver. Si vous voulez, Hélène, je pourrais vous donner quelques informations sur l'océan Arctique.
Bien, pourquoi pas?
Alors, avec sa superficie d'un peu plus de 14 millions de kilomètres carrés, l'océan Arctique est le plus petit et le moins profond des océans du monde.
Ah.
Alors, comparativement, j'ai fait une petite recherche et j'ai pu relever que l'océan Atlantique, elle s'étend sur 106,5 millions de kilomètres carrés. Et pour l'océan Pacifique, on est à 165,2 millions de kilomètres carrés. Donc, il y a vraiment une grande différence
Ouais.
entre ces trois océans. C'est également le plus froid. Une grande étendue de glace de mer flotte près de son centre et elle s'étend pendant le long hiver froid et sombre et se contracte en été lorsque le soleil monte plus haut dans le ciel. Et on comprend que la contraction, ben, c'est ce qui se passe aussi avec les banquises. Les effets du réchauffement climatique se font sentir dans le monde entier, mais nulle part autant que dans l'océan Arctique. La température augmente en Arctique 2 à 3 fois plus vite qu'à tout autre endroit sur la Terre, ce qui entraîne des changements considérables dans l'océan Arctique, ses écosystèmes et pour ces 4 millions de personnes qui y vivent quand même. Cette année, les scientifiques du National Snow and Ice Data estiment que la banquise du pôle Nord atteint sa taille maximale le 22 mars, avec une superficie évaluée à 14,33 millions de kilomètres carrés, soit la plus petite mesurée en plus de 4 décennies de surveillance satellitaire. En comparaison aux années 80, cela représente une baisse d'environ 12 %. Alors, peut-être qu'on devrait réduire nos consommations multiples de ces énergies qui causent ces réchauffements climatiques.
Oui, parce que le roi de la banquise va bientôt perdre sa couronne.
Exactement, il va surtout perdre sa banquise. On sait pas
son de territoire.
Quoi, de roi, de quoi. On va essayer de le garder roi.
Merci, Monique.
Quelque part au nord.
Alors, Québec Science, le prix du public, parlez-nous-en.
Ben oui, alors imaginez, Hélène, qu'il y a plus de 2200 personnes qui ont voté pour la découverte de l'année parmi les 10 découvertes 2024 qui ont été présentées dans le numéro de janvier-février de la revue Québec Science. Semble-t-il que la lutte a été serrée, mais c'est finalement l'équipe de François Légaré de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, qui s'est hissée en haut, en tête de classement. En partenariat avec le Infinite Potential Laboratories et le Centre universitaire de santé McGill, François Légaré, Simon Vallière et ses collègues ont découvert un moyen simple de produire des faisceaux d'électrons très énergétiques en utilisant un laser infrarouge ultra rapide dans l'air ambiant. Ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est, mais je peux vous dire ce que ça va donner. C'est une prouesse que l'on pensait techniquement impossible. Alors, ces faisceaux d'électrons sont une arme potentielle puissante contre les cellules cancéreuses. Alors, ça va bombarder ces cellules, si on comprend bien, et suscite un grand intérêt en physique médicale. C'est un projet à suivre de près.
C'est sûr. Les chiens et leurs maîtres se ressemblent-ils vraiment?
Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène?
Bien, j'ai l'impression que oui.
Ben oui. Alors, c'est pas qu'une impression. Il y a une revue systématique de la littérature qui montre même que c'est flagrant. Alors, leur corpulence sont corrélées. La longueur des oreilles des chiens correspond à celle des cheveux de leur maîtresse ou de leur maître.
Mais comment ça se fait, ça?
Ah ben, je sais pas. On dit que les femmes aux cheveux longs préfèrent les chiens aux oreilles tombantes. Et celles aux cheveux courts, ceux aux oreilles dressées.
Ah.
Ben, je peux vous dire, Hélène, j'ai une amie qui a les cheveux longs et elle a un chien aux oreilles tombantes.
Oui, vous avez donc un exemple, un modèle.
Alors,
une preuve
tangible. Alors, une des études pointe même que l'on peut deviner à quel maître appartient un chien sur la seule base de leur photo, y compris quand on ne voit que leurs yeux. Et c'est pas tout. Au-delà du physique, leurs personnalités sont aussi proches. Un maître extraverti aura un animal moins agressif qu'un autre émotionnellement instable et avoir un caractère ouvert est plus souvent associé à un chien facile à dresser. Alors, selon les éthologues, ces scientifiques qui étudient les comportements des espèces animales et humaines, eh ben, et les neuroscientifiques qui ont mené ces travaux, c'est parce qu'au fil du temps, par effet de renforcement et de co-régulation émotionnelle, nos traits de caractère fusionnent. Alors, on peut dire oui, tel maître, tel chien.
Avez-vous déjà eu un chien, vous, Monique?
Oui, ben, mes parents, en fait, deux chiens.
Ah
Un
oui, il me semble que
collie.
vous nous l'aviez déjà dit.
Et
Ouais.
puis un chow-chow, en
Ah oui.
plus. Parce que comme j'étais allergique au collie avec ses grands poils, plus tard, ils ont décidé d'acheter un autre chien qui était le chow-chow, c'est de la laine, en fait.
Ouais. C'est un petit chien, ça, un chow-chow?
Ben, c'est assez costaud, hein?
Ah
C'est
bon?
bas sur pattes, en effet, mais c'est assez costaud, avec une langue bleue. C'est un chien chinois.
J'imagine qu'il n'y avait pas de trait commun entre vous et le chow-chow, parce que vous n'êtes pas très costaude.
Non, non.
Oh non, je le vois devant moi, un petit toutou.
Oui. Oh, il
Ouais.
était adorable. On le traitait comme un petit
Un
toutou
bébé.
adorable, oui.
Alors, on passe à une autre nouvelle, une autre
Oui.
question. Est-ce qu'on est plus économe quand on est optimiste?
Eh bien,
Je
oui.
sais pas. Ouais?
Oui, tout à fait. C'est le résultat d'une synthèse de 8 vastes enquêtes de population qui portaient sur 140 000 Européens, Britanniques et Américains. Alors, plus on est optimiste, plus notre épargne est élevée, et cela, quel que soit notre âge, notre genre, notre emploi ou notre statut familial. Et c'est d'autant plus vrai quand on a de faibles revenus. Alors, selon les auteurs, être optimiste a un effet d'une ampleur comparable au fait d'être consciencieux. Un trait de personnalité, semble-t-il, reconnu pour son influence positive sur les finances. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hélène.
Je sais pas moi non plus. Alors, les gens optimistes
On
sont...
devrait étudier, on va se pencher sur la question et peut-être regarder un peu autour de nous ce que ça donne.
Oui, les optimistes sont cheap.
C'est une autre façon de
Oui,
le dire.
et on termine avec, ben, parlant de mauvais français, parce que j'ai utilisé quand même un anglicisme, un mot anglais, mais
Radin, on
c'était
va
pour la
dire radin.
blague. Ouais, c'est
Oui,
ça.
tout à fait.
Capsule linguistique, donc,
Oui.
cherchez-vous toujours la petite bête noire? C'est pas français, ça?
Ben, vous allez voir, c'est très intéressant.
Oui.
Alors, c'est Guy Bertrand qui nous dit qu'on ne devrait jamais modifier les expressions figées, sauf pour créer un effet comique ou pour les besoins, par exemple, d'un slogan publicitaire. Chercher la petite bête noire, en fait, c'est la fusion de deux expressions populaires. En l'occurrence, chercher la petite bête et être la bête noire de quelqu'un.
Ah bon?
Alors, pour rappel, chercher la petite bête, c'est examiner une chose sous tous les angles dans le seul but de trouver un problème. Par exemple, lorsqu'une personne est très négative et qu'elle cherche sans cesse des points à critiquer, on peut dire que cette personne cherche la petite bête.
Ouais, on peut dire que c'est une ou un pisse-vinaigre.
Peut-être oui. En revanche, être la petite bête noire de quelqu'un, c'est être le sourd-douleur ou l'ennemi juré de cette personne. Par
Wow.
exemple, si on est absolument incapable de tolérer son voisin, on peut dire mon voisin, c'est ma bête noire. Alors voilà un peu plus je sais pas, de précision, en
Bien
fait.
certainement.
Et
Alors,
puis là, ben, on
oui.
met de l'ordre dans nos expressions au lieu de
Oui.
les fusionner.
Et j'ai cherché vite là, ce que vous voulez dire, pisse-vinaigre, c'est une personne morose et aigre, désagréable.
Ouais,
Tout ce
ben,
qu'on...
elle cherche souvent la petite bête.
Ouais. Tout ce qu'on n'est pas, finalement.
Exactement, exactement. Même avec un temps plus vieux comme celui d'aujourd'hui.
Eh oui, on va faire avec, que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Monique?
Ben là, écoutez, je vais lire une série de haïkus
Oui.
parce que mon chéri, que vous connaissez, a
Francis?
préparé une Francis, oui.
Francis l'artiste?
Oui, artiste photographe, et vous vous souvenez peut-être qu'il a monté une exposition de photos de notre ruisseau, et il a joint à ces photos des haïkus. Et là, il monte un petit film, et je vais donc lire en français ces haïkus. Une japonaise lira les versions japonaises,
Ah
et une
oui!
anglophone les versions en anglais.
Ah, oh, on va
Voilà.
entendre votre belle voix à l'international.
On espère. En tout cas, pour le Festival des films japonais de Montréal.
Qui commence quand?
C'est en avril, quelque part. Là, j'ai pas la
date. Ah, ça s'en vient quand même.
Je pourrais vous dire ça. Oui, oui. La semaine prochaine.
D'accord, on compte sur vous. Merci beaucoup, puis passez une belle journée. On se retrouve jeudi prochain, je l'espère.
Oui, avec plaisir, Hélène.
À bientôt.
Au revoir.